Élysée avec Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. On est ravis de vous avoir ce soir. Bonsoir. Face à Valérie Nataf. Bonsoir, bonsoir, de TF1 LCI et Renaud Pila. On va jeter d'abord un coup d'œil sur le dernier sondage Kantar Sofres One Point pour LCI, voir un peu les résultats, enfin les données en cas de premier tour. Vous les voyez, j'allais dire pour les gros candidats, Macron et Marine Le Pen sont au coude à coude à 26%, François Fillon ne bouge pas à 17%, par contre, moins 4 points pour Benoît Hamon qui rejoint Jean-Luc Mélenchon. Et vous, que donnez-vous dans cette optique? Eh bien, vous êtes à 1,5% derrière Nicolas Dupont-Aignan, mais devant Philippe Poutou. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nathalie Arthaud, de se dire « les sondages me donnent un 5 » avec évidemment toutes les pincettes qu'on doit prendre quand on parle de sondages?
Ah bah, comparé au taux de passage, si vous voulez, dans les médias et à ma présence dans les grandes émissions politiques, je trouve que c'est un bon résultat. Voilà. Mmh. Je trouve que c'est un très bon résultat.
Parce que vous prenez
1,5% d'intention de sondage. Non, parce que encore à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne savent pas que je suis candidate. Et même certains, je vais vous dire, pensent qu'il n'y a que 5 candidats. Et je pense que d'ailleurs, demain, le débat va les conforter dans cette idée-là.
Mais est-ce que ça veut dire que les intentions de vote, à votre sens, sont indexées uniquement sur la campagne médiatique?
Mais écoutez, évidemment. Évidemment, pour que les gens aient envie de voter pour vous, il faut quand même déjà qu'ils sachent que vous êtes effectivement candidat en lice. Quelles sont vos idées? Quel est votre programme? Donc évidemment, rendez-vous compte, des émissions comme celle qu'il y aura demain sur TF1, c'est plusieurs millions de téléspectateurs.
Mais je m'étonne qu'une militante comme vous, pardon, des meetings, qui milite tout au long de l'année, se dise que c'est seulement le temps médiatique qui détermine le vote des gens.
Je crois que ce n'est pas que le temps médiatique, c'est certain, mais par contre, ça joue évidemment, puisque c'est quand même le premier accès que des millions de femmes et d'hommes ont au débat, aux discussions, au programme. C'est quand même la réalité. Et il y a quand même quelque chose de choquant, honnêtement, de voir qu'effectivement, le Conseil constitutionnel a officialisé la candidature de 11 personnes, de 11. Et puis finalement, il y a quelques milliardaires, parce qu'ils ont pu se payer des chaînes de télévision, des radios, la presse écrite. Eh bien, ils peuvent se tailler une campagne un peu sur mesure en décidant, eux, quel est le candidat qui aura ou pas la parole.
Alors moi, l'argent qui fait l'élection?
Eh bien, manifestement, ça joue beaucoup, voyez-vous, parce qu'on nous explique qu'on a tous un bulletin de vote et qu'on est tous à égalité dans l'urne. La réalité, c'est qu'il y en a qui peuvent influencer du fait d'être propriétaire des grands médias, l'opinion publique, et qui ont donc un pouvoir effectivement bien plus important que tout un chacun.
La différence aussi, c'est que vous dites que l'Élysée ne pouvait pas rêver par rapport aux autres candidats.
Ah, ça c'est vrai, oui, c'est ce qui sans doute va me singulariser, c'est que ni moi ni Arlette Laguiller avant moi n'avons jamais rêvé à l'Élysée ou à Matignon.
Alors pourquoi se présenter?
Nous ne voulons pas, alors j'explique d'abord, nous ne voulons pas prendre de responsabilité dans le cadre de ce système qui est basé sur l'exploitation, sur l'oppression. Nous on le combat, nous voulons le renverser, nous sommes convaincus que les travailleurs en se battant peuvent le renverser, mais justement nous avons une politique à défendre pour le monde du travail. C'est sûrement pas celle, justement, de départager les pantins qui s'excitent comme ça sur la scène politique, parce que moi, je pense que ce sont des pantins et que c'est la classe capitaliste qui tire les ficelles. Et d'ailleurs, on les voit une fois arrivés à l'Élysée. Regardez, ce qui me frappe, c'est que d'élection en élection, on voit leur programme. Alors, ils sont bien travaillés, les formules sont recherchées, il n'y a pas de doute, ils ont beaucoup investi là-dedans, les entreprises de communicants ont bien marché. Et puis, arrivés au pouvoir, crac, le programme, il se retrouve à la poubelle, on s'aligne derrière les
sorts. Vous seriez la seule sincère?
Ah mais ça c'est... en tout cas,
Mélenchon dit la même chose que vous, dégager les tous, la 6ème République...
Alors,
vous voulez qu'on l'écoute? On va l'écouter tout de suite.
C'est pas tout à fait la même chose.
On se reparle juste après.
Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon qui rassemble hier plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris, ça vous fait chaud au cœur quelque part? Vous trouvez qu'il fait une bonne campagne? C'est quelque part lui qui est dans la gauche radicale, comme on dit, non?
Bon, écoutez, il défend sa politique, Hein, il défend sa politique, il représente un courant qui effectivement est important, mais c'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Et justement, mais quand il
explique, vous êtes très différent vraiment d'un discours de Jean-Luc Mélenchon.
Très différent.
Vous le trouvez quoi, mou?
Quand il explique que c'est le bulletin de vote qui va effectivement donner un coup de balai, je n'y crois pas une seconde. Moi, je pense que c'est au contraire une levée en masse du monde du travail. Comprenez aujourd'hui ce qui se passe dans cette société. Hein, c'est qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom, c'est une guerre sociale. Et cette guerre, elle est menée par ceux qui sont à la tête des grandes entreprises, des grandes banques, et elle est menée à coups de suppression d'emplois, de licenciements, de fermeture d'usines, d'aggravation des cadences, de l'exploitation. Et répondre à cela, ça ne peut pas se faire avec le bulletin de vote, cela ne peut se faire qu'au travers des mouvements sociaux, des levées en masse du monde ouvrier. Et c'est au travers, effectivement, de ces explosions sociales que moi, j'appelle, enfin que moi, j'espère consciente.
En même
j'espère
temps, Nathalie Arthaud,
organiser
vous présentez
qu'on
à la
pourra effectivement balayer cette classe qui domine aujourd'hui la société.
Vous vous présentez en même temps à l'élection présidentielle. Donc quelque part, ça veut dire que le bulletin de vote, que les gens qui vont voter pour vous, ça sert à quelque chose.
Absolument. Mais ça sert à s'exprimer. Ça sert justement à montrer que les travailleurs, que les salariés, les ouvriers, les employés, les chômeurs ont une politique et ont des perspectives. Donc il n'y a aucune raison que je me taise dans cette élection-là. C'est effectivement pas la même que tous ceux qui nous expliquent qu'il suffira de voter, de changer d'équipe au pouvoir pour que le sort des travailleurs change.
Donc le bulletin de vote, mais ça sert à quelque chose quand même.
Ça sert à s'exprimer, mais uniquement à cela. Et je pense que c'est très important, effectivement, de s'exprimer. Et justement, moi j'appelle les travailleurs à ne pas se laisser abuser par ceux qu'on nous présente comme les principaux
Mélenchon
candidats.
Mélenchon abuse les travailleurs.
Mélenchon, comme les autres, parce que Mélenchon, quand il nous explique qu'il suffira de voter pour lui pour que le sort des travailleurs en soit changé,
une sixième république, tout change.
C'est faux.
Mais vous
moi,
lui accordez
que ce soit en passant à la sixième république, et je ne pense pas non plus que ce soit en sortant des traités européens que les travailleurs réussiront à obtenir de meilleurs salaires, ou qu'ils réussiront à s'opposer aux suppressions d'emplois. Je pense que c'est une question vraiment de rapport de force avec le patronat, de se faire
vous
respecter.
Vous êtes pour l'interdiction d'ailleurs des licenciements.
Voilà, hein. Mais je le dis, c'est une question de rapport de force.
Mais ça veut dire quoi, interdiction des licenciements? Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Eh bien, concrètement, les suppressions d'emplois qui sont programmées chez PSA, on les annule. On annule les suppressions d'emplois qui sont en cours chez SFR. On annule les suppressions d'emplois prévues par la BNP. Tous ces grands groupes ont réalisé des milliards
privées.
Et des milliards.
Ce sont des entreprises.
Eh bien
privées.
Oui, et on les contraint, et on les oblige, et on les force. On
leur met un certain nombre
d'interdictions. Par quel moyen exactement le pouvoir politique va...
Ah mais vous savez quand même déjà que les licenciements sont quand même encadrés.
Il y a un encadrement,
en théorie,
absolument.
En théorie, ils n'ont pas le droit de faire exactement tout ce qu'ils veulent.
Alors comment on les interdit?
Je suis tout simplement pour interdire les licenciements et les suppressions d'emplois dans... à commencer par ces grands groupes qui font des bénéfices.
Et vous dites que dans ce cas, si l'entreprise refuse de réquisitionner l'entreprise.
Alors, écoutez, si elle refuse de collaborer à ce qui est quand même une mesure de salut public, on peut dire, parce que le chômage, c'est quand même le fléau. C'est le fléau qui ravage la société. Il y a 6 millions de chômeurs, mais c'est aussi la dégradation, c'est une dégradation pour tout le monde, parce que le chômage, c'est aussi l'épée de la mobilité.
Mais est-ce que ça s'applique aussi aux PME?
C'est une mesure de salut public.
Vous parlez de grands groupes.
Donc moi, voilà, ces grands groupes qui ne voudraient pas collaborer à cela et qui en voudraient toujours plus, ben oui, moi je suis pour utiliser
les mesures contraignantes. Pardon, Madame Arthaud, vous dites les grands groupes, est-ce que ça vaut pour les PME, les TPE, les très petites entreprises?
Alors, ça, moi je pense qu'il faut le prendre par le bout des grands groupes, effectivement. Je pense qu'ensuite, en ce qui concerne les PME, dont vous parlez, il faut regarder, parce que dans certains cas, ces PME ou ces entreprises intermédiaires dépendent aussi de grands groupes, sont soit des sous-traitants, ce sont des grands groupes qui sont leurs donneurs d'ordre, donc il y a des liens. En réalité, beaucoup, beaucoup de petites entreprises sont sous la domination de ces grands groupes. Donc moi, je pense que là, il faut ouvrir effectivement les comptabilités de ces grandes entreprises, de façon à ce qu'on voit pourquoi les petites entreprises qui travaillent sous leurs ordres sont autant en difficulté.
Mais est-ce
quand on voit qu'eux, effectivement, ramassent la mise en quelque sorte.
Juste un mot, est-ce qu'un pays voisin ou un autre pays dans le monde a comme ça interdit les licenciements?
Mais non, il n'y en a pas. Et alors?
Vous pensez que des entreprises étrangères, par exemple, si jamais on prenait ces mesures, n'auraient pas une crainte d'être dans un pays unique au monde où on propose ce genre de mesures?
Vous savez, il y a de toute façon, moi je crois pas le choix. Soit on accepte cette dictature d'une classe capitaliste qui en veut toujours plus et qui est prête effectivement à ravager des régions entières. Parce que prenez certaines régions, prenez le Nord, prenez la Picardie, regardez ce qui se passe autour d'Amiens. Hein, année après année, c'est des dizaines d'entreprises qui ont fermé. Donc on accepte cela ou alors on leur dit ben non, ça suffit, hein, les milliards, vous les faites, hein, vous en avez par-dessus la tête, ils doivent servir aussi à protéger les emplois.
Merci beaucoup. On poursuit le débat juste après la pub et l'essentiel de l'info. À tout de suite. L'essentiel de l'info sur LCI avec le meeting de Benoît Hamon à Bercy.
Objectif Élysée, deuxième partie avec Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. On était dans le fond de votre programme. Vous nous disiez interdiction des licenciements, réquisition des entreprises qui licencieraient tout en faisant des bénéfices. Le temps de travail, vous le baissez, vous le laissez à 35 heures.
Oui, le problème c'est de répartir le travail entre tous, parce qu'on voit bien que dans toutes les entreprises, c'est vrai dans le privé, c'est vrai dans le public, bon, l'hôpital en est un exemple, hein. Les charges de travail ont augmenté, c'est des cadences infernales, c'est des horaires qui sont devenus délirants.
Donc les 35 heures, c'est pas bon alors.
Donc, ceux qui sont au travail sont complètement surmenés, et puis il y en a d'autres qui sont condamnés à l'inactivité, au chômage. Mais il faut changer cela, il faut répartir le travail. Donc on doit diminuer le temps de travail de ceux qui sont en emploi.
De combien?
De façon à créer.
On doit descendre à combien? 30 heures, 25 heures à peu près?
Jusqu'à ce qu'il y ait zéro chômeur. Parce que moi je pense qu'il faut faire de la place à ces jeunes, hein, qui sont ballottés de petits boulots en stage et qui sont condamnés au chômage. Il faut faire de la place à tous ceux qui
alors
sont,
les salaires,
qui
les sont salaires,
invalides,
juste, les salaires,
handicapés, les salaires, qui sont exclus.
Celui qui passe de, on va dire, 35 heures à 17 heures pour faire travailler son camarade, le salaire baisse ou il reste le même ?
Évidemment que non.
On diminue de moitié, par exemple, le temps de travail, mais on garde le même salaire.
Alors, je ne sais pas de combien il faudra le diminuer, mais on garde évidemment son salaire. Et moi, je suis même pour augmenter les salaires. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le SMIC, il est à 1150 euros net. Et quand on travaille, et il y a des millions de femmes et d'hommes, et souvent des femmes d'ailleurs qui sont des fois à temps partiel, elles travaillent, elles s'usent la santé, elles y passent leur vie, et elles sont pauvres. Donc moi je suis pour augmenter les salaires, le SMIC à 1800 euros.
Donc les bénéfices des entreprises publiques ou privées fondent dans ce cas-là?
Alors, ces bénéfices, ils sont fantastiques. Vous avez quand même vu les derniers chiffres.
Dans toutes les entreprises, il y a beaucoup de PME qui souffrent par exemple.
Oui, mais vous savez que les petits salaires ne sont pas réservés aux petites entreprises. Non, et c'est ça. Même souvent l'inverse d'ailleurs. Mm-hmm. Reprenez Carrefour. Prenez les plateformes des opérateurs téléphoniques, mm-hmm. prenez Peugeot, Renault, hein, c'est des petits salaires, souvent au SMIC, et c'est grâce aux primes de nuit qu'éventuellement il y a un petit peu plus de beurre dans les épinards. Donc non, il faut que
sur les métiers du dessus,
ces grandes entreprises ont réalisé CAC 40, 76 milliards de profits. Et celles qui ne sont pas cotées au CAC 40, pareil, tout va bien. Ces profits ont été réalisés comment ? Avec des suppressions d'emplois, avec des augmentations de la charge de travail, avec des jours de RTT. Donc c'est de l'argent, y compris, qui a déjà été volé aux travailleurs. Donc moi, je dis que cet argent, oui, doit servir absolument.
Valérie,
il doit servir à créer des emplois et à augmenter les salaires.
Est-ce que vous êtes favorable au revenu universel d'existence que défend Benoît Hamon pour 80% des gens qui gagnent moins de 2200 euros net?
Non, moi, je ne suis pas... le principe. D'abord, ce que je constate sur ce revenu universel, c'est qu'on y comprend plus grand chose maintenant, hein. Parce que il est plus universel. Enfin bon,
il s'étend. C'est ce que je viens de vous dire. À 80% des personnes qui gagnent moins de 2200 euros net.
Il est conditionné. C'est plus 750.
Pour les jeunes de 18 à 25 ans,
etc.
Il est conditionné.
Alors moi, ce que je vois, c'est que d'habitude les socialistes abandonnent leurs promesses quand ils sont arrivés au pouvoir. Mais là, la promesse, elle n'a même pas tenu le temps de la campagne. Bon, première observation. Et sur le principe de Benoît Hamon de dire que dans l'avenir, il y aura de moins en moins de travail, donc il faut assurer un minimum 750 euros. Eh bien, écoutez, moi, je pense que ça, c'est de l'acceptation du chômage. Et moi, je ne peux pas m'y résigner.
Vous n'êtes pas sur cette ligne. Vous êtes plus productiviste. Hein,
mais non, mais parce que simplement, vous savez qu'un travail, ce n'est pas seulement un salaire. Un travail, c'est aussi la dignité.
Ah ben voilà.
C'est la dignité. Ouais. Mais il faut aussi que ce travail,
vous êtes beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron sur la dignité du travail, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron s'oppose, par exemple, à cette philosophie du non-travail, du moindre travail chez Benoît Hamon.
Sauf que je pense que le travail, il doit offrir un salaire au minimum de 1 800 euros net, qui doit être réparti entre tous.
1 800 euros, c'est pour tout. Hein. C'est pour le minimum vieillesse, c'est pour les
oui, bien sûr.
Ça serait un salaire pour tous.
Les handicapés.
Non, c'est un minimum. Le SMIC, je porte le SMIC, effectivement, à 1 800 euros. Et oui, vous avez raison de le dire. Moi, je pense que les personnes handicapées qui sont aujourd'hui exclues de l'activité économique parce que, sans doute que les patrons considèrent qu'ils ne sont pas assez rentables, pas assez malléables et pas assez corvéables, eh bien, moi, je pense qu'ils doivent être intégrés à l'activité.
Mais comment on finance ça?
Donc, simplement, on donne la possibilité à chacun de travailler selon ses moyens. Voilà. Et on leur accorde, effectivement, un salaire correct de 1 800 euros. Et moi, je pense que... cet argent-là,
comment on finance ?
Mais c'est un combat. C'est un combat qui a mené, justement, en disant, bah, voilà, les profits, hein, les dividendes, les fortunes des actionnaires qui s'accumulent de façon éhontée, inouïe et même insolente à un pôle de la société, il faut qu'ils servent à cela.
Nathalie Arthaud, juste qu'on réduise les dividendes des actionnaires, soit ça peut être un choix de société, il y a juste un point quand même qui est un peu inquiétant sur les investissements, parce qu'il y a une partie, en général, de l'argent des entreprises qui est réinvesti pour de nouveaux produits, dans ce cas, quid de l'investissement,
c'est justement ce qui n'est pas versé aux actionnaires, en l'occurrence.
Voilà, exactement.
L'entreprise conserve sur ses profits une partie, parfois 20, parfois 30%, pour... Mais moi, je dis clairement...
Vous êtes pour l'investissement.
Je suis pour l'investissement, ouais. Mais je suis surtout pour que ces dividendes, que ces fortunes à accumuler à un pôle, mais qui deviennent délirantes, les chiffres sont... Mmh. On arrive... D'ailleurs, moi, je réalise pas, tout simplement. Hein. Fillon explique qu'il s'est fait... qu'on apprend qu'il s'est fait payer un costume à 6 500 euros, là, on réalise. Mais quand on parle de fortune du genre 37 milliards pour Bernard Arnault, 33 milliards pour Madame Bettencourt, on ne réalise plus ce que ça signifie. Vous savez que chaque semaine, Madame Bettencourt a 1 million hein, qui lui revient comme ça du fait de ses placements, de ses différentes actions, etc. Mais moi, je suis pour prendre sur cet argent-là. Bon. Et pourquoi pas aussi...
Benoît Hamon a dénoncé une partie de l'argent.
Ah, mais c'est un combat. C'est un combat qu'il y a à mener. C'est effectivement... Mais moi, je le dis aux travailleurs, au monde du travail, si on ne mène pas ce combat-là, oui, on est voué à être sacrifié parce qu'il n'y aura pas de limite. Vous savez, si on laisse faire cette classe capitaliste et grands actionnaires, c'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera. C'est beaucoup plus, effectivement, de pauvres, on sera poussé vers la misère. Donc alors, il faut réagir.
Vous l'avez vu, hein, Benoît Hamon a tenu un meeting aujourd'hui à Bercy. Il a réuni environ 15 000 personnes. Et lui aussi, il a critiqué cette campagne polluée par l'argent. On l'écoute.
Il dit la même chose que vous, là,
non.
Benoît Hamon. Non,
non. Écoutez, d'abord, le parti de l'argent.
Les puissances de l'argent.
Oui, mais on ne comprend pas tellement ce que c'est, vous voyez. Et moi, je le dis clairement, il y a une classe capitaliste aujourd'hui qui domine la société, qui domine l'économie, qui domine la vie de millions de salariés. Et qui est un obstacle, effectivement,
aux
intérêts collectifs. Et c'est cette classe-là qu'il faut combattre.
Sur le paysage politique français, est-ce que quand même, bon, on voit votre discours hein, sur la lutte des classes que vous assumez.
Oui, c'est ça.
Exactement, c'est la lutte des classes qui est assumée.
Vous dites d'ailleurs, je suis la seule communiste. Hein. J'ai lu
c'est
ça.
C'est une réalité, oui, bon.
Est-ce que vous considérez quand même qu'il y a une recomposition à gauche en France et que Jean-Luc Mélenchon rassemble 100 000 personnes hier? Benoît Hamon, on dit que c'est l'aile gauche du Parti socialiste, peut-être que ça vous fait sourire, vous. Mais est-ce que vous trouvez quand même que finalement, à gauche, peut-être dans 6 mois, 1 an, on y verra plus clair entre ceux qui étaient, selon vous, pas du tout à gauche et ceux qui sont peut-être un petit peu plus à gauche? Vous ne leur accordez pas un tout petit peu de conviction, quand même?
Non, mais c'est pas un problème de... Enfin, je leur accorde tout ce que vous voulez. Bon,
ah non, je veux rien. Moi, je vous pose des questions.
Peut-être même
sur
de la sincérité, mais
Valls à Mont, c'est non, pareil. Écoutez, Macron à Mont, c'est pareil.
Moi, je ne me suis jamais revendiquée de la gauche gouvernementale. Oui. Jamais. D'ailleurs, Lutte ouvrière, et moi, j'étais la seule en 2012 à ne pas appeler à voter pour Hollande au deuxième tour. Mmh. Et voilà, nous avons toujours dénoncé cette gauche qui, une fois au pouvoir, faisait une politique anti-ouvrière dans
la ligne. Vous n'avez pas été déçu, vous n'avez pas été
dans
surprise.
La ligne de la droite. Bah, du coup, j'ai pas été surprise, hein, ça c'est sûr.
Moins, ouais.
J'ai pas été surprise, mais voilà, donc vous savez, voilà, les illusions. Moi, je pense qu'on en a déjà suffisamment.
Excusez-moi. Vos adversaires
subi.
Pardon. Vos adversaires sont plutôt François Fillon, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Excusez-moi, mais j'entends ce que vous dites sur les partis de l'argent, votre version des partis de l'argent, mais est-ce que le principal combat, c'est contre la droite ou c'est contre cette gauche que vous estimez être finalement la même que la droite ou l'extrême droite?
Comme vous l'avez souligné, Il y a une lutte de classe dans cette société. Et moi, je pense que la principale adversaire, effectivement, des travailleurs, c'est cette classe capitaliste, c'est cette bourgeoisie qui domine. Et elle a effectivement une palette de partis à son service avec...
Mais plus qu'une Marine Le Pen, par exemple. Plus qu'une Marine Le Pen, parce que quand je vous disais...
On entend parfois, on dit qu'elle a des accents... presque d'extrême gauche dans ses propositions économiques. Pardon, je sais que je
vous l'avez entendu une seule fois, Marine Le Pen, dénoncer la classe capitaliste. Une seule fois, vous l'avez entendu dénoncer l'exploitation. Vous l'avez entendu dénoncer les grands actionnaires.
Dénonce le grand système, les oligarchies financières, l'Europe de Bruxelles,
ça
les intérêts financiers.
L'Europe de Bruxelles.
Elle est la seule contre le système.
Mais le système, mais c'est pareil. Tout ça, ce sont des mots creux. Hein. Et justement, quand elle va dénoncer l'Union européenne, c'est justement pour faire diversion, pour qu'on ne regarde pas ceux qui sont les licencieurs, ceux qui sont responsables de des attaques, les attaques patronales.
Mais pourquoi alors elle est aussi écoutée par les classes ouvrières?
Les responsabilités du grand patronat. Voilà,
pourquoi elle est aussi apparemment, on a vu le sondage au début de l'émission, 25-26%. Pourquoi Marine Le Pen est aussi apparemment écoutée de ces classes ouvrières, comme on disait Georges Marchais, ces classes laborieuses? Qu'est-ce qui fait son succès, selon vous?
Mais parce qu'il y a beaucoup de désorientation et parce que dans une période de crise où effectivement ceux qui avaient placé leur confiance dans la gauche et qui se sont sentis trahis et qui sont écœurés aujourd'hui, sont déboussolés.
Et pourquoi ils viennent pas vers l'extrême gauche?
Vous savez, ça, c'est un peu un mauvais procès. Parce que moi, je ne joue pas, armes égales avec Marine Le Pen. Vous le savez très bien. Ni sur ses plateaux, ni dans cette campagne, ni on n'a pas accès au même temps de parole, etc.
Enfin, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans, c'était 4-5% des voix.
Et puis surtout parce que, vous savez, quand il y a une crise, quand il y a la misère, le chômage qui monte, eh bien, le réflexe, c'est... le repli, c'est l'isolement, c'est le rejet de l'autre, c'est l'intolérance. Donc effectivement, tous les démagogues qui en font leur fonds de commerce peuvent gagner des voix là-dessus. Mais encore une fois, le vote pour Marine Le Pen, c'est le vote de la résignation. Parce que quand on en est à s'en prendre à des femmes et des hommes qui fuient l'enfer, aux migrants, qui sont des survivants, qui sont installés ici, qui ont posé le pied sur le continent européen pour trouver un petit coin de la planète pour vivre, eh bien, c'est que vraiment, vraiment, on ne se rend pas compte
de la réalité. Vous êtes pour la légalisation de tous les sans-papiers, régularisation de tous les sans-papiers. J'ai lu ça.
Oui, bien sûr.
Vote à toutes les élections pour les étrangers.
Oui.
Et pas de reconduction à la frontière.
Alors moi, je suis pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Voilà. Parce que je sais que quand on a...
Donc un Français ou un immigré, même droit.
Alors, même droit, oui, et vous savez, d'ailleurs, ils ont les mêmes obligations, et même souvent, ils en ont beaucoup plus d'obligations. Il y a un mouvement au marché de Rungis de sans-papiers aujourd'hui, qui a démarré il y a 3 jours, qui font grève et qui occupent donc une partie de Rungis, parce que justement, ils travaillent depuis des années dans les boulots très durs, ils sont surexploités, ils payent des impôts, et en plus de ça, il faut qu'ils se cachent. Ils sont traqués par la police. C'est une situation qui est intolérable.
Ils ne sont pas traqués. Ils sont en contravention avec la loi. Ils ne sont pas traqués. Là.
Eh bien, voilà. Alors, il faut qu'ils vivent, effectivement, qu'ils rasent les murs, etc. Et surtout, ils ne peuvent évidemment pas se défendre quand les patrons ne leur payent pas les heures supplémentaires,
non, mais
etc.
Là-dessus, j'entends,
il faut effectivement régulariser les sans-papiers, absolument.
On sait que vous êtes internationaliste, donc la loi qui s'applique aux gens qui rentrent illégalement sur le territoire, vous pensez-vous qu'elle est injuste?
Ah oui, moi je pense que, vous savez, moi ma patrie c'est l'humanité. Et jamais je ne dirais que ce bout de terre m'appartient, ou etc. Et je pense qu'il y a de la place pour tous. Et je pense que, y compris, vous savez, quand on appartient au monde du travail, au monde ouvrier en France, qu'on n'a pas de travail dans sa ville, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on change de région. Parfois même, il nous arrive de changer de pays. Et parfois même, il arrive de passer les continents. Eh bien, ces femmes et ces hommes qui ont eu le malheur de naître dans un pays en guerre, sous dictature ou sous-développé, eh bien, eux, ils doivent franchir des continents. Ils doivent changer de langue, abandonner leurs attaches. Eh bien, moi, je suis pour qu'ils puissent le faire, qu'ils aient la liberté de le faire.
On parlait de Marine Le Pen il y a 2 minutes. Est-ce que vous seriez prête à lui faire barrage en appelant à voter pour un autre candidat au second tour.
Ah, moi, je pense que le barrage contre l'influence de Le Pen dans la classe ouvrière, ce n'est absolument pas des combines politiques.
Et vous voteriez blanc ?
Pas une combine au deuxième tour.
En cas de second tour,
justement,
vous faites quoi ?
C'est faire en sorte que les travailleurs qui ont perdu, effectivement, leur boussole politique du fait de tous ces reniements, de tous ces abandons de la gauche au pouvoir, la retrouvent, qu'ils renouent avec le mouvement ouvrier. Mais le combat, il est sur un autre terrain. Il faut que les travailleurs renouent avec ce qui a toujours été fait leur force.
Pour que les gens qui votent pour vous au premier tour soient clairs, au second tour, vous feriez quoi ?
Le combat des travailleurs, ça a été l'unité des travailleurs dans la lutte contre le patronat.
Mais répondez à la question, ce serait
pas de consigne de vote.
Je réponds à la question.
Et clairement, pour que les gens qui nous regardent comprennent.
Ça ne peut pas être le barrage. Et que
donc pas de consigne de vote.
Le combat politique, il a un autre niveau. Alors, et puis là, vous n'allez pas me demander des consignes de vote pour le deuxième tour. Moi, je commence la campagne pour le premier tour. On ne sait même pas qui sera au deuxième tour. Donc, et je vous le dis.
Ça peut être une question qui se pose quand on voit
le problème des
paysages politiques.
Voilà, pour les travailleurs, il faut qu'ils renouent avec la politique qui représente leurs intérêts. Et moi, dans cette campagne, c'est ce que je cherche à faire. C'est que justement, moi, je cherche à gagner. Le cœur, l'intelligence, la conscience des travailleurs. Tout notre problème, c'est de retrouver la conscience de ce que nous représentons. Les travailleurs représentent une véritable force sociale. On nous explique tous les jours que la clé de voûte de l'économie, c'est les plus riches, c'est cette classe capitaliste, c'est la bourgeoisie, ce sont les PDG. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que les forces vives de cette économie, ce sont les ouvriers, ce sont les employés, c'est toutes les petites mains de cette économie, sans nous. Que feraient les Mulliers, les Peugeot, les Michelin, sans femmes de ménage, sans majordomes, sans les conducteurs de train, les pilotes d'avion ?
Pour revenir à chose de politique,
mais on est
pourquoi
tous des travailleurs, Nathalie Arthaud.
Mais j'espère que vous en avez conscience, parce que parfois, j'ai un doute.
Je vous rassure, on en a bien conscience.
À dimanche soir.
Vous présentez à l'élection présidentielle, et il y a aussi Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, qui se présente. Pourquoi, pour faire avancer vos idées, n'avez-vous pas réussi à joindre vos forces ?
Mais parce que là, en l'occurrence, on les fera avancer, et même doublement, puisqu'on aura deux candidatures, deux fois le temps de parole.
Vous le souhaitiez, ça,
effectivement. Et moi, je le souhaitais.
Vous n'avez pas peur de la cacophonie trotskiste au premier tour ?
Mais pas du tout, parce que vous savez, y compris dans le mouvement ouvrier, on n'est pas pour le parti unique, On est aussi pour que les travailleurs aient le choix. On n'est pas pour le mariage forcé. On a aussi nos nuances. Moi, quand j'ai entendu les primaires de droite et de gauche, j'ai vu qu'il y avait cette nuance qui s'exprimait. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous exprimer avec nos nuances, nos différences qui existent, c'est vrai. Moi, je ferai une campagne centrée sur cette conscience de classe. J'appellerai un vote de conscience et de dignité ouvrière. J'appellerai à un vote pour que les travailleurs expriment cette idée qu'il faut prendre confiance dans
leur force. Philippe Poutou,
Il va noyer, sans doute, y compris ce message-là, dans un tas d'autres dénonciations qui vont aller de la dénonciation contre l'inégalité entre les femmes et les hommes, les violences policières.
C'est un combat qui vous tient à cœur ?
C'est des combats qui me tiennent à cœur.
Vous étiez à la manif, d'ailleurs.
J'étais à la manif, j'étais à la manifestation, et je dénonce, évidemment, tout cela, cette xénophobie qui monte, ce racisme, etc.
Mais, l'inégalité homme-femme
aussi. Encore une fois, évidemment, d'ailleurs, on la met en œuvre, puisque vous savez que on a toujours choisi un porte-parole femme dans notre organisation. Et sauf que je pense que ces combats-là avanceront si les travailleurs y reprennent confiance dans leurs propres forces. Parce que ce sont eux, vous savez, mais sur tous ces combats, même sur les droits des femmes, même sur les combats sur la décolonisation, cela a toujours été porté par le mouvement ouvrier quand il était fort, quand il osait effectivement mettre en avant ses revendications, ses intérêts et ses perspectives. Eh bien, nous, c'est cela que nous voulons reconstruire.
Question, il y a eu un attentat hier à Orly-Sud. Vous avez suivi les informations comme tout le monde. Aujourd'hui, on a rendu hommage aux victimes de Mohamed Merah 5 ans après. Quelles sont vos propositions sur la sécurité à lutte ouvrière ?
Alors d'abord, je commencerai par ce que je ne ferai pas. Quand il y a un attentat comme celui qui a été perpétré hier, c'est que je n'en profiterai pas pour faire des amalgames, pour tout mélanger, et je n'en profiterai pas pour Jeter du venin, du poison xénophobe contre les musulmans, contre les immigrés, contre, comme Marine Le Pen, comme Fillon, le font systématiquement.
Mais vous trouvez que le gouvernement a bien agi,
y compris sur certains sur l'attentat.
Ils ont dénoncé la lâcheté du gouvernement face au terrorisme.
Non, mais c'est de toute façon, Marine Le Pen. C'est facile. Hein. Ils font tous de la surenchère, et puis il faut plus armer la police. Et il faut
Là, pour le coup, vous êtes réaliste sur ces sujets de sécurité. Ça, pas de surenchère. Juste un mot par rapport à.
Mais attendez, vous faites quoi? Parce qu'il nous reste quelques secondes.
Ah, mais. Moi, je pense que le problème, il faut le prendre à la racine. Il faut prendre à la racine.
Les jeunes.
On sait d'où vient. Bah, d'abord, dans la société, il faut se poser la question. Quand
vous êtes enseignante.
Il faut se poser la question. Mmh. Et moi, je me la pose tous les jours. Mmh. Qu'est-ce qui peut faire que même une fraction, une minorité de jeunes regardent de ce côté-là, vers un avenir aussi barbare, hein, vers le Moyen-Âge? Comment, d'où cela vient-il? Bah, moi, je crois que c'est le fruit de la déshumanisation de notre société. C'est le fruit qu'il n'y a plus d'idéal collectif, plus d'élan. On est censé, vous comprenez, ces jeunes, ils sont marginalisés, ils sont exclus pour un certain nombre. Et puis, ils sont censés s'extasier, là, devant les milliardaires, devant. Notre société, elle l'exclut, elle l'isole, elle nous force à nous forger une carapace.
Donc, c'est un travail de valeur.
Et tout ça, ça fait le lit, oui, du fanatisme religieux, je pense. Comme d'ailleurs de la délinquance, hein. Et ce qui souvent d'ailleurs s'entrecroise. Donc le mal, il faut le prendre à la racine.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant, on débrief la semaine politique, toujours avec Valérie Nataf et Renaud Pila. Et ce sera juste après le journal. À tout à l'heure.